Dans l'actualité des idées aujourd'hui, une critique du primitivisme avec Philippe Dagen, professeur d'histoire de l'art à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne et critique d'art au Monde. Auteur de Primitivisme, une invention moderne, publié chez Gallimard, où il dit vouloir comprendre les processus par lesquels le moderne invente le primitif. Comment s'est bâtie cette fiction? On en parle avec lui jusqu'à 13h30. Bonjour à vous, Philippe Dagen.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est un peu la suite de l'un de vos précédents ouvrages. Il y a 10 ans qu'il est paru, Le peintre, le poète, le sauvage, les voies du primitivisme dans l'art français. Qu'est-ce qui a motivé cet examen critique ou ce réexamen aujourd'hui?
Je parlerai plutôt de réexamen. Tout simplement le fait qu'au fur et à mesure que je continuais mes lectures et mes recherches, il m'apparaissait qu'il y avait encore beaucoup de choses à analyser, à comprendre. D'une part, dans le détail même des arguments et des faits, et que probablement aussi, il manquait, si j'ose dire, une interprétation plus globale de cette pensée du primitif à la fin du 19e et au début du 20e siècle, et l'intuition qu'il fallait probablement aller la chercher du côté du politique, de l'économique, de l'évolution des sociétés dites modernes dans cette période.
Vous êtes reparti des peintres qui vous sont chers, d'un Derain, d'un Picasso?
Je suis moins reparti des peintres qui me sont, certes, pour certains, chers, que des anthropologues, des médecins, de ceux qui ont commandé, des aliénistes, des préhistoriens, de toute une culture scientifique qui se constitue, somme toute, à partir de... dire dans la très grossièrement dans la seconde moitié du 19e siècle, qui est très internationale, dans laquelle on côtoie des chercheurs ou des savants britanniques, allemands, français, américains, etc. Plus je les lisais, plus je me rendais compte de ramifications vraiment très très étendues dans différentes disciplines de ce qu'on appelle les sciences humaines, voire les sciences exactes. Et leur point de convergence, c'était précisément cette sorte de passion ou de fascination pour ce qu'ils appellent le primitif, c'est-à-dire au fond l'inverse de ce qu'ils pensaient être eux-mêmes.
Le primitif, c'est l'autre.
Le primitif, c'est l'autre, et c'est ce que nous étions peut-être avant de devenir ce que nous sommes désormais. C'est-à-dire, le primitif, c'est un terme qui a été un peu galvaudé, mais enfin, mettons que le primitif, c'est l'anti-moderne, c'est le contraire du moderne. C'est celui qui n'est pas encore passé par tous les stades d'évolution au terme desquels la merveilleuse société occidentale peut se déployer dans l'ensemble du monde.
D'où cette étude du regard aussi, et de la perception que l'on a du primitif à travers ses représentations, du sentiment que l'on peut transférer aussi sur lui, sentiment de supériorité, ou au contraire d'admiration pour un exotisme, un retour aux origines.
C'est une notion terriblement complexe, dans la mesure où elle est constamment, où elle n'est jamais séparable, au fond de son contraire. Pour prendre un exemple simple, il n'y a pas de primitivisme sans l'afflux, en Europe dans un premier temps, puis aux États-Unis dans un deuxième temps, d'artefacts en provenance d'Afrique, d'Océanie. Bon, cet afflux n'est rendu possible que par la conquête coloniale, qui détruit les sociétés dont ces objets sont eux-mêmes originaires. Et donc, on en arrive assez rapidement à des paradoxes du genre où les artistes qui, intellectuellement ou poétiquement, manipulent ces objets, le font dans une perspective critique, contre un état du monde qui est celui-là même qui leur permet d'avoir accès à ces objets. Donc on est en permanence face à des contradictions de ce type-là.
Est-ce que vous vous souvenez, Philippe Dagen, du film de Chris Marker et d'Alain Resnais, Les statues meurent aussi? Sorti en 53, les deux réalisateurs partent d'une question. Pourquoi l'art nègre se trouve au Musée de l'Homme alors que l'art grec, par exemple, se trouve, lui, au Louvre? Extrait de ce documentaire sorti donc en 53.
La beauté involontaire des animaux et des plantes éclaire un visage de jeune fille. Et nous pouvons bien prendre sa lumière pour un sourire ou même son huile pour une larme et nous émouvoir, à condition de bien savoir que ces images nous ignorent, qu'elles sont d'un autre monde, que nous n'avons rien à faire dans ces conciliabules d'ancêtres qui ne sont pas les nôtres. Nous voulons y voir de la souffrance, de la sérénité, de l'humour, quand nous n'en savons rien. Colonisateurs du monde, nous voulons que tout nous parle, les bêtes, les morts, les statues, et ces statues-là sont muettes. Elles ont des bouches et ne parlent pas, elles ont des yeux et ne nous voient pas. Et ce ne sont pas des idoles, plutôt des jouets sérieux, mais qui ne valent que parce qu'ils représentent. Il y entre moins d'idolâtrie dans nos statues de saints, personne n'adore ces poupées sévères. La statue nègre n'est pas le dieu, elle est la prière.
Voilà, là on a deux hommes marqués par une absence de considération pour l'art africain qu'il raconte dans ce film, qui a été pendant un temps interdit par ailleurs. Hein.
Oui, dans le contexte de lutte pour les indépendances, en effet, à la fin des années 50.
Leur questionnement vous intéresse ?
Alors, c'est un questionnement qui n'est pas directement dans le champ chronologique de l'ouvrage dont on parle aujourd'hui. J'aurais envie de vous dire, c'est un questionnement qui, à mes yeux, vient au fond, mais c'est le cas de beaucoup d'autres, qui vient relativement tard. C'est-à-dire qu'en réalité, l'idée de l'incompréhension, l'idée de la non-communication, l'idée par ailleurs d'une acculturation systématique qui ne fait qu'aggraver l'incompréhension, ce sont des idées que l'on trouve chez certains, y compris, paradoxalement, peut-être, chez des auteurs qui sont impliqués dans le processus de colonisation auquel ils ne trouvent rien à redire, un demi-siècle avant les statues Meurthe-et-Moselle. C'est-à-dire que l'idée que l'on se trouve face à des objets que l'on ne comprend pas, et sur lesquels on projette des interprétations ou des stéréotypes, souvent malheureusement des stéréotypes qui sont exclusivement le fait des Occidentaux, c'est une idée que vous trouvez exprimée chez Apollinaire, mais c'est même à certains égards en amont d'Apollinaire, chez certains anthropologues, l'idée que ces statues sont muettes. Je pourrais répondre aux auteurs du film qu'elles ne sont muettes que pour qui ne veut pas les écouter, et qu'elles ne sont aveugles que pour qui ne sait pas les regarder, si j'ose dire.
Alors, revenons-en 50 ans plus tôt, puisque c'est la période que vous étudiez. Ce courant primitiviste, où commence-t-il, ce mouvement, et avec qui s'arrête-t-il pour nous expliquer, pour qu'on puisse le cerner? Est-ce que c'est un mouvement de célébration? C'est comme ça que vous le qualifieriez?
Non, pas en tout cas dans sa totalité. C'est un mouvement de célébration et de condamnation simultanément. Quand il commence, si l'on pense du point de vue de l'histoire des idées, on peut dire que l'ouvrage de Taylor en 1870 peut fournir un repère chronologique relativement commode. Et avec ensuite, ce que je disais à l'instant, une prolifération d'auteurs dans lesquels vous avez aussi bien Fraser que l'école ethnographique française, Moss, jusqu'au très contestable Lévi-Brulle, et ainsi de suite. Si l'on pense en termes par exemple, d'aliénistes, on a les premières recherches, ce qu'on appelle à l'époque l'art des fous, qui est considéré comme une autre forme de primitif, chez Réja ou d'autres, au début du XXe siècle. La question de l'art des enfants, parce que tout le monde sait que les sauvages, je le dis évidemment par antiphrase, les sauvages, les fous, les enfants, les paysans, en somme, et les hommes de la préhistoire, c'est la même chose. Qu'ils en sont tous au même stade rudimentaire de développement mental. Et ça, c'est une idée, cette espèce de comparatisme généralisé que l'on trouve très couramment dans les années 1890. Les artistes, puisque j'imagine que c'est de que vous souhaiteriez que l'on parle, les artistes n'interviennent, si j'ose dire, directement dans cette affaire-là que qu'avec Gauguin. Mais on peut trouver des signes contemporains ou même à certains égards annonciateurs antérieurement, et le processus prend une forme beaucoup plus visible à partir des toutes premières années du XXe siècle. Et évidemment, avant les œuvres que l'on considère à mes yeux d'une façon beaucoup trop schématique, comme les Demoiselles d'Avignon par exemple, qui posent beaucoup de problèmes très complexes et que l'histoire d'une simple comparaison avec un masque africain ne permet en aucun cas de résoudre. C'est beaucoup plus compliqué.
Ça a été analysé comme tel a posteriori, surtout.
Oui, ça a été analysé. Oui, mais là encore, ça a été analysé comme tel a posteriori, mais très tôt. C'est l'une des choses qui m'étonne le plus quand je continue à travailler sur ces questions-là, c'est de constater à quel point des idées qui ont été exprimées il y a maintenant plus d'un siècle ont mis un temps vraiment très long pour s'exprimer ainsi dans le registre de l'euphémisme, pour arriver à une diffusion et à une prise de conscience.
Exemple, quel type d'idée?
Exemple, à l'instant, dans le journal de vos collègues.
De Thomas Cluzel.
Thomas Cluzel, oui.
Vous avez trouvé très triste son journal.
Bah, écoutez, l'histoire de la pollution à Fukushima. Bon, au début des années 1910, un auteur britannique, D.H. Lawrence, qui n'est pas tout à fait un inconnu, proteste déjà contre le fait que l'industrialisation est en train de ravager les vallées alpines, dans lesquelles il voudrait voir un refuge d'un temps ancien, rustique, qui est en cours de perdition. Le même auparavant a observé le même processus de destruction de monde partout où en Grande-Bretagne des mines se sont ouvertes et où le prolétariat industriel s'est implanté là où jadis subsistaient des sociétés agricoles. Et c'est un processus que vous trouvez exprimé, je prends l'exemple de Lawrence, mais vous le trouvez chez Kandinsky au début du spirituel dans l'art, vous le trouvez chez Noll, c'est une idée qui est, je dirais presque déjà, très largement exprimé au début du XXe siècle. Et vous voyez qu'au début du XXIe, nous sommes toujours là. Mmh. On n'a pas vraiment pensé ces choses-là, en tout cas pas suffisamment clairement.
D'où ce livre, au tournant du siècle, quand même, vers 1900, pour comprendre comment naît aussi cette avant-garde artistique. Où est-ce qu'ils font connaissance, ces artistes, avec ces œuvres venues d'ailleurs, d'Afrique ou encore du Pacifique, hein. Vous citiez Gauguin aussi comme l'un des initiateurs du primitivisme avec la Polynésie. Là, il va aller chercher aussi ce contact-là. Mais d'abord, c'est des pièces qui ont été ramenées de voyage, des découvertes qu'ils font dans les musées aussi, dans des collections qui se créent, dans
qui
des collections ethnographiques.
Qui sont créés. La chronologie est très claire. Les premiers grands arrivages, si j'ose cet affreux terme commercial, c'est la fin du XVIIIe siècle. Les premières grandes collections se constituent en Grande-Bretagne à la suite ou dans la dynamique, si vous voulez, des voyages de Cook et en France des navigateurs homologues de Cook. Et les objets sont présents. Tout au long du 19e siècle, grâce à l'activité des missionnaires qui créent des musées, à Londres en particulier, ou d'explorateurs, ou de missions scientifiques. Donc, il y a des dizaines de milliers d'objets océaniens et africains en Europe, en 1880, en 1890. Il y en a déjà tellement que quand des musées allemands s'adressent aux gouverneurs, puisque à cette époque, la Nouvelle-Guinée est une colonie allemande. Elle cessera de l'être après la Première Guerre mondiale. Quand les conservateurs de musées allemands, de musées ethnographiques s'adressent aux autorités allemandes de Nouvelle-Guinée, on leur répond, écoutez, on peut plus rien vous envoyer parce que déjà tout est parti. Ce qui a eu, entre autres, d'ailleurs, pour conséquence, là encore, pourrait considérer comme relativement catastrophique, de faire que les savoir-faire locaux se sont perdus. Donc, les objets, les œuvres sont là. On ne les regarde pas. Alors, on les expose souvent mal. Je dois dire que c'est particulièrement le cas en France où la galerie ethnographique du Trocadéro était assez catastrophique, ne serait-ce qu'on a quand même quelques photos qui montrent comment les objets sont disposés. Au fond, c'est des trophées cinégétiques, si vous voulez. Entre l'ethnographe et le chasseur, il y a une parenté assez flagrante, y compris quelquefois d'ailleurs dans les armes. Derain, Picasso, Matisse et d'autres, ou Kirchner, ou Pechstein en Allemagne, je veux dire, n'ont qu'à aller dans les galeries ethnographiques. Simplement, il y a un moment où ils se mettent à y aller. Donc, ce n'est pas tant le fait que des objets arrivent qui crée le processus, mais le fait qu'une génération née grosso modo vers 1880 de jeunes artistes s'aperçoit qu'il y a dans ses œuvres de quoi engager un processus de réflexion et de création qui les dégage, éventuellement même très brutalement, de toutes les traditions, de tout l'enseignement des beaux-arts tels qu'ils l'ont subi dans leur jeunesse.
Donc il y a quand même dans cet intérêt pour par les artistes, pour les peuples et l'art dit primitif, peut-être la manifestation d'une critique, d'une insatisfaction aussi face à nos sociétés, à la société pré-industrielle, aux limites de notre civilisation aussi.
Tout à fait. C'est une chose que l'on constate là encore très 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 couramment. Vous me posiez la question de la, au fond, de la visibilité, de la disponibilité des objets. Non seulement ils sont dans les musées, ils sont dans le commerce, mais ils sont aussi dans les journaux, ils sont dans les revues, ils sont dans les livres, ils sont photographiés, ils sont gravés, et ils sont toujours accompagnés de légendes qui ont un caractère péjoratif. On les ridiculise, ou alors on les accuse d'obscénité ou de grossièreté.
Il y a un jugement moral.
Il y a un jugement moral et probablement esthétique, en tout cas un jugement de goût dont l'incapacité à voir autre chose que ce que la civilisation depuis la Renaissance ou depuis l'Antiquité gréco-romaine a produit demeure presque stupéfiant aujourd'hui. D'où ma remarque tout à l'heure, les statues ne regardent pas, c'est plutôt qu'on ne sait pas les regarder. Il y a un phénomène d'aveuglement idéologique qui reste malheureusement, je pense, encore actif aujourd'hui.
Donc, on parle des anthropologues, on parle des ethnologues, oui. ce sont des pièces de curiosité presque, hein. ces œuvres qu'on peut voir à ce moment-là dans les musées. Mais ça n'en fait pas pour autant des œuvres d'art. Est-ce que vous diriez que le regard de ces artistes a donné de la valeur à ces œuvres? Est-ce que le regard de ces artistes a changé le statut de ces œuvres et de ces statuettes?
Oui, progressivement, mais très clairement, et dans la mesure où ils étaient accompagnés, en tout cas particulièrement sensible à Paris, par un certain nombre d'auteurs, j'ai cité Apollinaire tout à l'heure, on pourrait en citer d'autres, qui ont été leur porte-parole et leur compagnon de cordée, si j'ose dire. Mais oui, bien évidemment. Alors, la valeur, on peut même l'entendre de deux manières, qui sont d'ailleurs généralement dans le monde de l'art peu dissociables. L'une est la valeur, on va dire, intellectuelle, artistique, où, en effet, on commence à regarder un peu moins mal certains de ces objets à partir du moment où l'on sait que des artistes que l'on ne peut pas quand même considérer comme totalement négligeables les regardent. Et le processus est assez rapide, en fait. Je dirais qu'en 1912-1913, c'est en place. Et il y a également le processus de la valeur financière. C'est-à-dire qu'un marché de l'art s'organise avant la Première Guerre mondiale. Et on est surpris de constater que les chroniqueurs de l'époque trouvent déjà que le renchérissement de ces objets est assez surprenant par rapport aux quelques francs qu'ils pouvaient valoir au tout début du XXe siècle.
Et ça contribue à cette invention du primitif par le moderne.
Ça l'accompagne. Je ne sais pas si ça y contribue. Ça l'accompagne. Il est probable qu'aux yeux de certaines personnes, ça le légitime, ou en tout cas, ça les rassure. Si ça vaut un peu d'argent, c'est que c'est forcément pas complètement inintéressant. Mais là aussi, c'est un processus très conventionnel du marché de l'art.
Alors, emprunt ou influence, je vous propose d'écouter en 66 les mots du critique d'art, ethnologue, écrivain Michel Léris.
Certes, enfin, l'art nègre a eu une influence, mais dans une large mesure, je pense en ce moment aux artistes cubistes, dans une large mesure, c'est une rencontre qui s'est produite, beaucoup plus qu'un emprunt. Ce qu'ils ont trouvé, ce sont en quelque sorte, je dirais, des frères, des recherches qui concordaient. Les recherches, c'est peut-être un mauvais mot, on va dire réalisations qui concordaient avec ce qu'eux-mêmes recherchaient, c'est-à-dire donner le plus de solidité plastique possible, la construction la plus ferme possible à l'œuvre. Ils n'ont pas manqué d'être impressionnés par la présence extraordinaire, l'impression de présence totale qui se dégage d'une statue africaine quand on la voit absolument carrée, bien établie dans ses trois dimensions. On peut dire que les sculpteurs africains ont réussi tout particulièrement à résoudre ce qui est le grand problème de la sculpture.
Rencontre, ce terme, Philippe Dagen,
c'est-à-dire, ce n'est pas très surprenant de la part de Michel Léris, loin de là, mais l'extrait est parfait. Il n'y a pas un mot dans ce qu'on vient d'entendre de Léris qui, à mon sens, mériterait même quelques commentaires que ce soit. C'est absolument parfait. Oui, rencontre, compagnonnage. J'ai employé dans le livre la notion d'autorisation symbolique. C'est-à-dire que le fait que d'autres aient pu partir dans des directions qui sont clairement non représentatives, qui ne sont pas imitatives des formes, par exemple, du visage ou du corps humain, engage des artistes à aller voir, non pas nécessairement dans la même direction, mais à s'affranchir des règles et des principes qui leur ont été inculqués. Donc, rencontre, accompagnement, je crois que Léris emploie la notion de fraternité, qui d'ailleurs impliquerait beaucoup d'autres choses que la fraternité artistique. Oui, c'est en effet de cela dont il s'agit. Mais, bon, que Léris voit juste, c'est pas... Au fond, ça prend, c'est l'une de ses immenses qualités.
Est-ce qu'on peut le raconter ça à travers une autre figure du primitivisme que serait Picasso? Parce qu'il y a eu récemment, jusqu'au milieu de l'été, au Quai Branly, une exposition, Picasso primitif, qui explorait justement ses liens avec les arts non occidentaux, entre lui, ce peintre espagnol, français, et les arts non occidentaux. Est-ce que là, vous voyez-vous ce dialogue se recréer?
Je vous ferai à peu près la même réponse que précédemment. Il y a très très peu de cas, en réalité un ou deux, où l'on peut, et d'ailleurs celui qu'on connaît le mieux, c'est parce que Picasso lui-même l'a signalé aux historiens de l'art, obligeamment dans les années 60, où il y a une solution plastique que Picasso dit lui avoir été suggérée par un masque Grébeau. Bon, mais quand Picasso est au bateau Lavoir, c'est-à-dire au moment où il peint les Demoiselles d'Avignon, on sait par une photographie un peu miraculeuse quels sont les objets non occidentaux qui sont dans son atelier. Alors, il y en a d'abord deux qui sont absolument pas africains, puisque ce sont des faîtages de huttes kanak. Donc, ils viennent de Nouvelle-Calédonie. Une vérification simple assure que la Nouvelle-Calédonie n'est pas un pays africain. Et les deux autres sont des objets, une harpe et une sorte d'autel fait de petites statuettes polychromes superposées qui sont des objets évidemment faits pour le commerce colonial et qui n'ont aucun des prestiges que l'on accorde à la grande statuaire africaine pour parler comme le faisait Léris à l'instant. Donc, il est clair que Picasso n'a rien à apprendre de ces quatre objets littéralement. À l'inverse de, si l'on peut dire, la marge de manœuvre que l'existence de ces objets lui ouvre, oui, bien sûr. Au fond, il libère de l'espace. Ce ne sont pas des modèles, ce sont des, comment pourrait-on dire, ce sont des éclaireurs, où ils ouvrent des portes et à Picasso ensuite de suivre la direction qu'il peut ou qu'il souhaite, mais qui ne lui sera pas conseillé par ces objets eux-mêmes. La raison pour laquelle je crois n'employer jamais dans ce livre le terme d'influence, d'abord à la fois parce que c'est une notion terriblement évasive, et puis ensuite parce que non, ce n'est pas de cela dont il s'agit.
Aujourd'hui, vous avez dû entendre cette polémique. Certains portraits des nus aussi polynésiens de Gauguin font polémique, notamment à Londres, où la National Gallery l'a exposé, tout en mettant en garde le regardeur de certains abus de position dominante du peintre à l'époque, qui aurait, dixit le musée, profité de sa position d'occidental privilégié pour avoir des relations avec des fillettes de 13-14 ans. Est-ce qu'il faut aussi relire les œuvres à l'aune de notre morale, de nos préceptes aussi d'aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que ce type d'avertissement est à propos?
Je pense qu'on devrait surtout relire les œuvres au terme d'une connaissance historique. Et dans le cas de Gauguin, il y a un nombre considérable de facteurs. L'âge du mariage dans les sociétés polynésiennes avait évidemment rien à voir avec l'âge du mariage en métropole au même moment. Bon, ce qui n'exonère personne de rien. L'une de ces adolescentes a été mariée à Gauguin par sa famille, ce qui, là encore, ne change rien. Que Gauguin ait pu penser que dans un, j'allais dire dans un commerce sexuel, mais j'imagine que la formule est un peu désuète, avec des adolescentes, que cela ait quelque chose à voir avec une sorte de fascination pour un état d'innocence évidemment totalement perdu en Occident, sans doute. Que l'on explique que aujourd'hui ce sont des comportements qui nous heurtent me paraît parfaitement légitime. Que l'on essaie, non pas de justifier Gauguin, mais d'expliquer comment ce comportement, au fond, en un sens, j'aurais presque tendance à dire que j'aggrave son cas, mais peu importe, comment ce comportement s'inscrit dans sa propre mythologie de l'innocence, me semblerait, du point de vue de l'historien, plus complet, mettons. Mais je comprends que l'on ne fasse pas des cartels de 3 pages à l'entrée des expositions non plus.
Philippe Dagen, je vous propose d'écouter les mots d'un autre artiste plasticien contemporain français, c'est Bertrand Lavier. Il revient sur le point de vue ethnocentré ou pas sur ses objets, sur ses œuvres d'art venues d'ailleurs.
Moi, je pense très très simplement, c'est quand les dieux abandonnent ces objets qu'ils deviennent des sculptures. Hein, ça se passe sans ce petit décalage-là. Et comme on ne peut pas avoir autre chose qu'un point de vue ethnocentré sur ces questions-là, sur ces objets, c'est le nœud de la question se situe là. C'est vrai que les Demoiselles d'Avignon, Picasso, à soi, comme vous le dites, leur esthétique sur cet art-là, mais en fait, asseoir, c'est aussi s'en inspirer. Mm-hmm. C'est très nettement, il y a un mimétisme. Ils ont été au fond séduits par ces objets et ils en ont fait eux-mêmes des sculptures. C'est-à-dire que c'est là où notre regard rétrospectif a changé la réalité de ces objets.
Voilà, il y a Bertrand Lavier qui revenait sur ce rapport entre art primitif et art contemporain aujourd'hui. Lui-même s'est inspiré d'objets d'Ogon ou encore pour sa sculpture Mamba, inspiré des bolis d'autres.
Oui, enfin il a fait des choses qui sont assez subtiles. C'est-à-dire qu'il a pris de la sculpture qui d'ailleurs n'est pas exclusivement africaine et il a fait de sculptures de bois des fontes donc métalliques qui sont patinés comme nickelés quoi, comme des rétroviseurs ou comme, et il y a évidemment dans le changement de matériaux et dans le changement de lumière et de couleur quelque chose qui introduit une différence sensible. Je pense que ce sont des pièces dans lesquelles Lavier suggère aussi beaucoup de choses sur, comme il le dit dans cet entretien, sur notre rapport à ces objets, mais aussi passant par le collectionnisme, le renchérissement, le fait que ce sont devenus des objets de luxe, alors que ce n'était pas des objets et que la notion de luxe n'est pas pertinente à l'origine pour les comprendre.
Est-ce qu'aujourd'hui, un siècle après, ce courant primitiviste que vous étudiez, Philippe Dagen, dans ce livre paru chez Gallimard, est-ce que vous diriez que la relation des artistes est plus avec ses œuvres est plus égalitaire?
Écoutez, je vais vous, j'essaierai de préparer, de fournir les conditions de la réponse à votre question, parce que je prépare pour le musée du Quai Branly pour dans quelques mois, enfin pour octobre prochain, une exposition avec exclusivement des artistes vivants de toute provenance sur ces questions-là, dont d'ailleurs Lavier est l'un des protagonistes avec d'autres. Et alors le rapport est complètement différent. C'est un rapport qui est évidemment beaucoup plus informé, on peut dire à certains égards beaucoup plus égalitaire. C'est un rapport qui, chez certains artistes, les frères Chapman par exemple, s'applique plutôt à la consommation de ces formes dans la société contemporaine qu'à la compréhension de ces formes. Mais où je me détacherai un petit peu de ce que disait Lavier dans l'entretien, c'est qu'il y a des artistes qui s'efforcent aujourd'hui de réactiver ces formes anciennes de l'art africain pour leur injecter des significations qui peuvent être des significations politiques ou qui peuvent être des significations religieuses ou qui peuvent être des significations d'ordre sexuel qui en font des œuvres qui sont tout aussi puissantes et expressives que dans des contextes sociaux et culturels complètement différents, les masques ou les statues pouvaient l'être il y a maintenant bien plus d'un siècle, enfin un siècle et demi dans le meilleur des cas. Donc oui, le rapport a complètement changé, il est très présent. Aussi bien aux États-Unis que, évidemment, chez des artistes qui travaillent aujourd'hui au Cameroun ou au Bénin, aussi bien chez des sculpteurs que chez des photographes. Et il n'a, je crois, plus beaucoup d'éléments de comparaison avec ce dont on parle dans ce livre.
Et puisque vous nous parlez du Bénin, je vous emmène là-bas avec un dernier témoignage, celui de Marie-Cécile Zinzou, pour évoquer avec vous en conclusion la question de la restitution des œuvres qui fait débat depuis notamment aussi le rapport Felwine-Sarr-Bénédicte Savoie rendu récemment et qui préconise de rendre, de restituer aux pays concernés leur patrimoine.
Notre problème aujourd'hui, c'est de se dire, voilà, on a eu une toute petite période de colonisation finalement. C'est une soixantaine d'années, c'est rien. Et pourtant, cette période-là a balayé notre histoire et a retiré notre fierté. Et donc, à un moment, il faut récupérer, il faut reconnecter avec notre histoire. On est au Bénin, on est les héritiers d'une tradition et de plusieurs traditions, parce que nous sommes héritiers de plusieurs royaumes, nous sommes héritiers de traditions extrêmement riches. On ne peut pas juste les réinventer comme ça. Il nous faut quelque chose de tangible auquel se raccrocher. Il faut qu'on puisse montrer aux enfants les traces de cette histoire et de cette fierté. Ces objets-là, ça dit tout notre patrimoine, ça dit notre civilisation, ça dit nos croyances, ça dit notre façon de gérer le pouvoir. C'est essentiel pour se construire. En France, on se construit à travers aussi Versailles et le Louvre. C'est des choses qui symbolisent quelque chose, c'est des images fortes qui nous permettent de nous construire. Au Bénin, aujourd'hui, certes, on a un peu de patrimoine localement qui est très mal géré, mais objectivement, les pièces les plus spectaculaires que vous montrez sont à New York, à Paris, à Berlin et à Londres.
Voilà, le primitivisme est lié intimement à la colonisation aussi, Philippe Dagen. Est-ce qu'aujourd'hui, comme de nombreux pays le demandent, en Afrique notamment, il est temps de solder les comptes un siècle après? Comment écrire la suite de l'histoire?
Vous voulez dire dans le futur? Oui, ça, là, je ne m'engagerai pas là-dessus. C'est une question extrêmement, complexe. Sur ce que dit Marie-Cécile Zinsou, là, s'agissant de la situation béninoise, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à redire. Les régalias dont le Bénin demande la restitution ont été pillés au cours d'une expédition de conquête à Abomey. Bon, voilà, on est dans le cas de prise de guerre. Il y a même une législation internationale sur les prises de guerre qui, d'ailleurs, s'est appliquée après la Seconde Guerre mondiale. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne l'appliquerait pas dans le cas présent. Cela est vrai des bronzes de Benin City, mais Benin City est en fait un royaume au Nigeria, à ne pas confondre avec le Bénin, où également c'est un pillage de l'armée britannique cette fois-ci, qui a mis sur le marché des centaines d'objets en bronze qui sont devenus extrêmement prestigieux et coûteux. Donc que certains pays aient au fond la nécessité d'un rapport direct avec des objets qui très clairement appartiennent à leur histoire religieuse et à leur histoire politique, oui. Alors, mais je vous dirai assez volontiers ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que on a mis quand même bien longtemps avant de s'en rendre compte.
Philippe Dagen, merci beaucoup. Primitivisme avec un S, une invention moderne. Votre nouvel essai critique vient de paraître chez Gallimard. J'invite aussi les auditeurs à lire votre critique dans Le Monde de la nouvelle exposition Soulages qui vient de débuter au Louvre, où vous estimez que le musée fait un peu fi du dialogue entre les œuvres et les artistes. C'est pour être la suite de notre discussion à reprendre un jour. Merci beaucoup à toute l'équipe de la Grande Table, à Jean-Christophe Brianchon et Laura Dutèche-Pérez pour la Grande Table des Idées, à Oriane Delacroix et Sophie-Catherine Gallet pour la Grande Table Culture, avec l'aide précieuse de Sophie Marty et de François Bréus. À la réalisation aujourd'hui, c'était Alexandra Candy-Longuet, et avec Jacques Ezubert, et à la vidéo, Cindy Legrumelec. Très belle après-midi et très belle soirée particulière sur France Culture ce soir.